What up, what up, what up, welcome on the journey with the prince. Pour Marc ou Brandon, partie, bah du coup on a la partie 3 là. J'avais dit qu'il y aurait une deuxième, bon là c'est un peu un, vous connaissez, bref. Restez branchés avec nous, comme j'ai dit, vous donnez vos commentaires, vos retours. Là, comme expliqué dans l'intro, on sera avec, surtout avec Lord Plantin, qui va venir nous développer quelques théories par rapport... Parce que déjà c'est lui qui a dit qu'il fallait une partie 2. Du coup, on va écouter ce qu'il a à dire, ce qu'il a complété, ce qu'il a ajouté. Et par rapport à tout ça, faire une conclusion générale. Lord Plantin, what's up?
Ah, écoute, hein, Prince Moïse, l'homme à doter.
Ah, parle seulement, on t'écoute.
Oh, laisse-moi t'introduire, non?
Parle.
Regardez-moi ces gens-là, c'est toujours comme ça avec vous. Bon, le premier point sur lequel j'aimerais qu'on discute un peu, qu'on fasse un petit tour ensemble,
ouais. C'est
en revenant sur la question des alphas et des bêtas. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de parler de la question du mariage. Quelle est la place, en fait, du mariage du point de vue de l'homme alpha et quelle est la place du mariage du point de vue de l'homme bêta? Pourquoi? Parce qu'en fait, de mon point de vue, je résumerais ça en disant que le bêta a tendance à se marier pour sécuriser une relation, pour sécuriser son accès à, entre guillemets, la ressource qu'est la femme. Là où l'alpha aura tendance à, entre guillemets, faire une fleur à la personne avec qui il se met en lui donnant en fait un accès privilégié. Parce que l'alpha aura tendance à être beaucoup plus recherché, à avoir une valeur sociale, entre guillemets, plus prisée. Mmh. Et donc, quelque part, s'il dit « je suis à toi et à personne d'autre », ça revient à lui dire « mets-toi bien, en fait ».
Ok. Ça, c'est pour la première partie.
Yes.
Mais en soi, fais, on va dire, l'intro des parties que tu as et puis tu balances directement le sujet.
Hein. Yes, yes. Alors, dans un second temps, j'aimerais qu'on parle aussi de la question du bonheur. Okay. Chez les personnes dites bêta, parce que le fait d'être bêta ne doit pas être pris comme étant un amoindrissement de soi, on ne doit pas être pris comme étant une manière de dire qu'on a moins de valeur dans la société, que l'on est moins important. On a énormément besoin de tous les profils au final de la société, c'est ce qui permet de la concevoir.
Mm-hmm.
Donc c'est intéressant aussi de savoir comment permettre que la personne dite bêta puisse s'épanouir dans ce qu'elle est et bénéficier au maximum, on va dire, à la société.
Ok.
Ensuite, les mâles alpha et ce qu'on appelle les alpha widows. Alors, le phénomène est assez intéressant pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept. Il fait référence tout simplement au fait que beaucoup de femmes qui ont fréquenté des hommes alpha ont tendance à penser qu'elles ne méritent que des alphas et qu'elles ne pourront s'épanouir avec des alphas. Et okay. Donc ça crée un cercle vicieux puisque ça n'a pas marché avec un alpha, elles ne cherchent que des alphas, elles n'ont pas forcément appris comment les gérer,
mm-hmm.
et de facto elles vont rejeter tous les bons potentiels partenaires qui leur correspondraient en réalité beaucoup mieux, simplement parce qu'elles se disent qu'elles vaut en fait simplement l'accès au top du top qui dans sa tête est du coup un homme alpha, même s'il ne lui correspond pas.
Ok.
Et enfin, le dernier point, si on a encore le temps, ce serait de parler en fait, de ce qu'on appelle les sigma. Alors, les sigma, eux, tranchent avec les alpha et les bêta, qui sont les deux catégories dominantes. Mais en réalité, il y a d'autres variantes, il y a d'autres nuances qui sont possibles de prendre en compte.
Mm-hmm.
Et j'aimerais du coup qu'on s'intéresse à ces mystérieux sigma, qui sont en fait des gens qui pensent en dehors de la boîte, comme on dit,
okay.
mais qui en même temps... présentent certaines caractéristiques qu'on pourrait considérer comme étant plus proches des alpha et d'autres qui sont plus proches des bêta. Donc au final, les sigma qui
c'est
sont
un peu ça, ok, un peu l'équilibre, genre on dirait. Ok, vas-y, hein. fais-toi plaisir.
Bah, la première question du coup, c'est au fond, est-ce que le mariage c'est bon pour nous? Déjà, en tant qu'homme, c'est une question qu'on doit se poser. Hein. Est-ce que le mariage est bon pour nous? Est-ce qu'on y gagne vraiment quelque chose? Est-ce qu'on veut se marier? Est-ce qu'on ne veut pas se marier?
Et pourquoi est-ce qu'on veut se marier?
Pourquoi est-ce qu'on veut se marier? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? De ton point de vue, c'est qu'est-ce que tu gagnerais à te marier ou qu'est-ce que tu penses que tu perdrais à te marier?
Ah ouais, t'es venu mettre une colle là.
Ah mais c'est intéressant,
il est venu mettre une colle là.
On doit se dire les termes,
il
non
est venu mettre... Ah ouais, mais là t'es vraiment en mode show. Hein.
Ah.
Moi, pour être très honnête avec toi, d'accord, là, tu connais, hein, 100% transparence toujours.
Mmh.
Moi, déjà, à la base, tu sais, dans mon désir et ma vision du mariage de manière générale, c'était une journée assez mouvementé dans le sens où je sais que j'avais une période spécifique où j'étais en mode je veux absolument me marier, etc., des trucs comme ça. Mm-hmm. Tout comme j'ai eu une période où je me suis dit, mais en fait, comme tu es en train de dire, est-ce que j'ai vraiment envie ou même besoin de me marier? Et qu'est-ce que j'y gagnerais même, tu vois? Mm-hmm. Du coup, en fait, j'étais dans mes visions, dans mes valeurs, principes, partagés entre tout ça, tu vois. Parce que jusqu'à pas longtemps, je crois que c'était en 2020, 2021, je sais plus, on me posait des questions. Et j'étais en train de dire, en fait, quel type de vie, style de vie est-ce que je souhaiterais avoir et dans lequel est-ce que je vais tirer le plus profit et satisfaction personnelle, mm-hmm. tu vois? Est-ce que je veux une vie de monogamie? Donc, terminer avec une femme et tous des enfants, on est bien. Est-ce que je voulais une vie en mode, je me marie pas forcément, mais j'ai les femmes que je veux. Est-ce que je veux une vie ou est-ce que, tu vois, il y avait vraiment ces questionnements-là de me dire, mais dans quoi est-ce que je me plais le plus? Et honnêtement, moi, par exemple, ma vision et mon désir envers le mariage ou pas, etc., ça relève de ma foi aussi, tu vois. Ça revient de là, je sais que toi, t'es un peu un opposé de tout ça.
T'es un peu un opposé de tout ça.
Moi, c'est vraiment l'aspect, si tu veux, déjà de comment est-ce que mes parents ils m'ont éduqué. On a beaucoup parlé d'élévation, d'éducation. J'étais élevé quand même dans une spirale assez de foi, des trucs comme ça, religieuse et tout. Ce qui fait que moi, ma vision du mariage, c'est plutôt une institution divine, mm-hmm. tu vois. Donc, ça veut dire en mode, il faut se marier déjà pour accomplir, entre guillemets, les desseins de Dieu sur terre, tu vois. Et il y avait aussi l'aspect... avec une autre personne, du coup, former un et développer tout ce que peut-être je ne pourrais pas développer seul, mm-hmm. et pour ensuite aller vers un but commun et accomplir ce pourquoi, entre guillemets, je suis sur Terre.
Yes.
Tu vois, c'est ça, si tu veux, le pourquoi je souhaiterais me marier, tu vois, parce que je me suis aussi remis en question de est-ce que j'ai envie de me marier ou pas, nanana. Mais alors d'aujourd'hui, si je dois te répondre par rapport à ça, ce serait ce que je t'ai dit là, hein. C'est vraiment accomplir le ce pourquoi I'm on Earth, tu vois. Et avec une personne, du coup. Donc, voilà pour moi. La sauce commence.
Non, ça fait petit à petit, mais...
Voilà, ça, c'est un ce qui
je
concerne.
Je dois poser la même question à Hugo.
Hugo, toi.
Moi, comment je vois le mariage? Moi, ouais. Je vois le mariage... Je ne crois pas en Dieu. Je suis pas du tout là-dedans. Et okay. J'ai pas été élevé là-dedans.
OK.
Mais moi, je vois le mariage comme quelque chose de symbolique, en fait.
OK.
C'est pas pour... Ça a été inventé par les gens de foi, les gens qui sont religieux. Mais je vois le mariage, en fait, c'est quelque chose qui va me permettre de... En fait, je vais prouver à la personne mon amour. En fait, ça sera... C'est en fait une manière de dire...
De sacraliser la chose, en fait.
C'est toi et personne d'autre.
Ok,
tu vois.
Ok, ouais.
Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose qui est beaucoup démocratisé. C'est qu'en fait, c'est plus comme dans les anciennes années où tu te mariais et tu restais avec cette personne toute ta vie. Maintenant, tu te maries et tu peux en sortir quand tu veux, tu peux divorcer, tu peux. Enfin, maintenant, on n'est plus dans cette optique-là où tu te maries, tu restes tout le temps avec cette personne, tu vois. Okay. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple d'en sortir du mariage. Mais ça, c'est encore une autre problématique, c'est autre chose.
Le vrai truc, c'est pourquoi c'est important.
Pour moi, le mariage, c'est vraiment c'est quelque chose de symbolique. Prouver à l'autre que cette personne-là compte vraiment pour toi.
Ok.
C'est intéressant, du coup, que tu parles de l'aspect symbolique, le côté sacré du mariage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de largement désacralisé. Je pourrais commenter en revenant sur, on va dire, les raisons pour lesquelles il a été désacralisé, mais... Ça nous amènerait à parler, on va dire, d'autres thématiques qui sont pas forcément intéressantes. Donc, je vais plutôt revenir sur vraiment ce qui nous intéresse en tant qu'hommes. Parce que si on doit comprendre notre rapport au mariage, on doit aussi nous poser la question au final, OK, mais ça nous donne quoi? Mais qu'est-ce que tu donnes en échange? Et en fait, la grande théorie, c'est que pour obtenir cette stabilité relationnelle, il faut que tu abandonnes quelque chose. Et souvent, on dit, on dit des gars qui ont beaucoup de succès, souvent, oui, ils ont arrêté de tourner, de s'amuser, de jouer et tout. Ils se sont posés. Et en fait, juste cette expression, ils se sont posés, en anglais, on dit to settle. Qu'est-ce que c'est censé en fait apporter comme information? Parce qu'au final, si tu étais à l'aise dans le fait de jouer, mm-hmm. pourquoi est-ce que tu te marierais? Qu'est-ce que tu trouves de plus dans le fait de te poser que tu ne trouvais pas dans le fait de jouer?
Oui, mais tu peux aussi te poser sans te marier. Tu vois, il y a des gens, ils sont pas forcément pour le mariage, mm-hmm. et ils vont rester ensemble 20 ans, et tu vois, alors que c'était peut-être un charreau qui joue tout le temps avec les filles, et pourtant il s'est posé sans se marier. Tu peux te poser sans te marier en soi.
Ouais, mais je posais la question vraiment sous l'angle du mariage, parce que ici c'était pour cette question-là, mais ce que tu dis est vrai. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens que je connais dont les parents ne se sont jamais mariés et les parents ne se sont jamais séparés. Et on connaît tous tellement de gens, ils ont pu être mariés pendant 15, 20, 30 ans, puis...
Mais du coup, est-ce que ta question elle va dans la direction de tout settle, donc se poser tout court, donc qu'est-ce qu'on voit peut-être de plus au fait de se poser que de tourner en rond? Ou est-ce que c'est vraiment uniquement dans le cadre du mariage? Parce que, à part l'aspect, bah, entre guillemets, sacralisation, etc., honorer l'autre, vraiment, cérémonie et tout, indirectement, je dirais, je ne vais pas dire que ça revient au même, hein, mais indirectement, on va dire que c'est le même principe, ça veut dire faire le choix d'une personne, tu vois.
C'est ça.
Du coup, ouais, ta question, du coup, elle est...
C'est dans ce sens-là.
Ok. Bah, vas-y, continue.
Bah, parce qu'en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que si tu trouves ton bien-être dans le fait, justement, de varier tes partenaires, de varier les rencontres, d'expérimenter de la nouveauté, choisir une personne et abandonner cette diversité, ça peut être vu comme une grande perte, en fait. Et il y a des gens qui le vivent très mal. Là où, si tu es une personne qui a beaucoup plus de mal à entretenir une relation qui te satisfait et qui a beaucoup plus de mal aussi à voir, entre guillemets, plus loin que la relation dans laquelle tu es, parce que, entre guillemets, tu n'arrives pas à te projeter dans le fait de, je mets des guillemets encore, remplacer la personne avec qui tu es aujourd'hui par une potentielle autre personne demain et construire à nouveau une relation saine dans laquelle tu pourrais être mieux, bien, etc., etc., ben alors là, le mariage pourrait être beaucoup plus un filet de sécurité. Et ça tient aussi au fait que l'accès, ben, typiquement, hein, les ressources en fait que entre guillemets, on échange dans une relation, souvent, dans une relation, on va dire, plus traditionnelle, les femmes vont attendre de l'homme plus de la sécurité, de la protection, une espèce de prise en charge, en fait. Là où l'homme va attendre de la femme beaucoup plus qu'elle soit présente, qu'elle soutienne, qu'elle nous valorise, et évidemment, l'accès à son corps. Et l'accès au corps est d'autant plus intéressant que, autant le sexe, ça va dans les deux sens, parce que je te donne, tu me donnes, on est censé dans un processus d'échange mutuel, puisque la relation sexuelle, c'est un échange. Mmh. Mais ce que l'homme attend normalement de la femme dans le cadre sexuel, c'est que la femme ne soit pas dans la promiscuité avec d'autres hommes. Donc c'est un accès exclusif, en fait, que l'on demande à la femme.
Oui.
Là où la femme va attendre de nous qu'on prenne soin d'elle, de sa maison, de sa progéniture, etc. Et que du coup, on soit investi dans ce processus-là avec elle et pas avec quelqu'un d'autre. Et cet aspect exclusif, en fait, justement, n'est pas vécu de la même manière, en général, hein, dans les gros traits, selon qu'on soit plutôt du côté bêta ou du côté alpha, parce que souvent les alphas ont tendance à se dire, bah, en fait, il y a beaucoup de poissons dans la mer, donc si c'est pas avec elle, je peux le faire avec une autre personne. Mm-hmm. Donc c'est un peu cet aspect-là que je voulais mettre sur le tapis. Okay. D'où la question du coup que je vous ai posée, histoire de savoir si de votre point de vue, vous aviez ce sentiment en fait de gagner ou de perdre hypothétiquement dans une situation où vous verriez vous marier.
Ok.
C'est intéressant, hein.
Ouais. Pour être honnête avec toi, comme tu as dit, en fait, il y a un point que tu as souligné, c'est en fait, si une personne se plaît dans le fait d'avoir plusieurs partenaires, ou bien, tu vois, d'être libre, entre guillemets, de tourner en rond, etc., si elle s'y plaît, pourquoi se marier, tu vois. Et c'est là que c'est bien d'avoir le pourquoi et tout. Mm-hmm. Mais si je dois, par exemple, répondre personnellement, moi, je dirais que, à un moment donné, je ne vais pas dire en mode j'ai fait le tour ou des trucs comme ça, mais on va dire, j'ai pris le temps de m'amuser, tu vois, de voir ce que ça fait, de voir ce que ça donne, de gérer des femmes un peu à gauche, à droite, ce que tu veux. Et je ne sais pas, mais dans ma vision, en tout cas, finale, j'ai toujours été un partisan de la monogamie. C'est-à-dire que même le fait de, si on me dit demain, ouais, t'as deux femmes pour toi et ton nana, flemme. Franchement, les femmes, c'est casse-tête.
Double problème.
Ouais, non, je suis pas dans ces trucs-là, dis-toi. Et c'est pour ça que, ouais, non, moi, je suis plus dans un délire de monogamie. C'est même, dis-toi que je suis tellement en mode pas dans un délire là. Bon, après, ça sort encore à l'autre volet. Mais que même le délire de trio, j'ai jamais testé des trucs comme ça. Mmh. Tu vois? Parce que, et j'ai eu l'occasion, hein, pourtant. Mais, je sais pas, je suis traditionnel.
Des traditions, tu sais pas.
Tu comprends? C'est l'expérience, hein, c'est encore autre chose. Je dis pas que j'ai jamais fait, hein, mais t'as capté. Il y a le lien, en fait, tout le lien là, il ramène à ça aussi, tu vois. Mmh. Donc, moi, à titre personnel, je suis plus en mode, ben, je me vois bien avec une femme posée, en fait, tu vois, tout simplement. Donc, maintenant, pour dire est-ce que c'est un gars, est-ce que c'est une perte, honnêtement, je vois pas ça comme une perte de terminer avec une personne, du coup, à titre personnel, tu vois. Je me dis au contraire, si vraiment je tombe sur quelqu'un dont on a la même vision, tu vois, dont on se complète, tout ce que tu veux, bah, j'aurais plus à en tirer au niveau de ma personne, au développement de ma personne, entre guillemets, tu vois. Je pourrais plus puiser et tirer et faire, tu vois. Donc, non, je vois pas ça comme... Bon, après, perdre d'argent, hein. Faut doter les gens, faut acheter des...
Mais toi, tu es un homme à doter. Est-ce que tu vas doter? Est-ce que tu vas doter? Tu vas doter pourquoi?
Ça sera à l'autre volet.
Tu vas doter seulement la moitié parce que l'autre moitié revient chez toi.
Voilà, je dote puis je reprends mon argent.
Allez.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si on va parler de perte, je dirais que ce serait purement, uniquement au niveau... peut-être finance, blabla, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est quand moi, je parle de... Après, parce que c'est une perte, non, c'est juste que je prends mes responsabilités, tu vois.
Ouais, mais là où est-ce que.
C'est un investissement plutôt, tu vois. Mais là où est-ce que je dirais gain, franchement, à titre personnel, je crois, j'arrive à un stade où je suis prêt à construire tout simplement avec une personne, en fait. En vrai des vrais, tu vois. C'est même un désir, donc je vois même pas ça comme. Au contraire, j'ai envie de rendre jalouse les autres avec cette une-là avec qui je serais. Tu vois pas le délire.
Mais voilà. Je ça, vois très moi, bien le délire. Et en fait, c'est bien que tu dises ça comme ça parce que c'est aussi le fait que chacun doit trouver la zone où, entre guillemets, il a touché à sa propre maturité.
Voilà.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois.
Parce que, encore une fois, on a tendance à dire que l'alpha fait ça, le bêta fait ça, mais on ne dit pas comment est-ce que le bêta va s'accomplir, comment est-ce que l'alpha va s'accomplir.
Exactement.
Et en fait, tu peux partir avec, du coup, tes cartes d'alpha et être malheureux. Parce que tu n'as pas trouvé le moyen de t'accomplir.
Exactement.
T'es un alpha, mais t'es un alpha qui tourne en rond.
Exactement.
T'es un alpha qui n'a pas avancé, ou t'es un alpha qui est malheureux, ou t'es un alpha qui est dépressif, ou t'es un alpha qui n'a que des relations sans lendemain.
Ouais.
T'as 30 femmes, tu sais que tu leur envoies un SMS, elles mouillent et elles viennent dans ta chambre dans 10 minutes.
Mais quand t'es seul le soir,
qui... Voilà, qui c'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, en fait, t'es un alpha, mais t'es pas un alpha accompli.
Heureux.
T'es pas un alpha heureux, en fait. Et même chose pour un bêta, même chose. T'es là, tu trouves la bonne personne.
Voilà, t'as si sécurisé. Okay.
T'as sécurisé, mais en fait, dans ta relation, t'as l'impression, en fait, que une fois que le mariage est arrivé, c'est bon, il n'y a plus de magie, il ne se passe plus rien, parce que maintenant, tu vis pour ton... T'as entre guillemets, vécu pour la personne, ou tu vis pour ton mariage, ou tu vis pour tes enfants, et donc, en fait, t'as plus de vie en tant que personne. Tu t'étais battu en mode oui, je veux trouver la bonne personne, etc. Mais au final, cette relation, elle est devenue ta prison. Est-ce que tu t'es accompli? Non, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de se demander pourquoi tu veux te marier ou pas, ou pourquoi est-ce que tu veux être dans une relation de couple de longue durée, ou tu vois, te projeter dans cette relation avec une personne sur le long terme.
Mais lui, du coup, pour Guy Hyper, tu dirais quoi?
Moi, je dirais. Franchement, je vois pas le mariage comme une perte de quelque chose. Je vois plus comme le mariage. Je vais pas gagner quelque chose ou je vais pas perdre quelque chose. Non, je vois plus quelque chose comme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de symbolique. C'est je veux prouver à l'autre que via la demande en mariage et via le mariage que en fait ça sera elle.
Ok.
Tu vois, c'est pas. Je te demande un mariage, donc du coup, je vais gagner ça en retour, tu vois. Non, je le fais pas pour gagner quelque chose en retour, je le fais pas. Et si je le fais, je sais que je vais pas perdre quelque chose, je vais rien perdre. Le mariage, c'est juste une manière d'exprimer mon amour. Ou, c'est une manière comme une autre d'exprimer son amour en soi, le mariage.
Ok.
Moi, je vois ça plus comme ça.
Ok.
Ouais, c'est très beautiful.
Du coup, je suis un peu à l'over dans ma tête.
Honnêtement, c'est loin d'être une mauvaise chose. T'inquiète pas.
Je ne vois pas ça comme une mauvaise chose. Hein,
nous, les lovers, nous avons le cœur qui déborde de passion. J'avance mon avis. On va parler de R&B des années 90. Hein, ça devient compliqué. Mais du coup, on peut parler de l'aspect je dirais, épanouissement de soi, tu vois. Dans le sens que tout à l'heure, tu as parlé du livre Superior Man.
Ouais, The Way of the Superior Man de David Ayda.
Je pense vraiment qu'il faut insister sur le fait que l'épanouissement de chacun, en fait, mon épanouissement n'est pas le tien. Enfin, okay. Quand je dis mon épanouissement n'est pas le tien, c'est que si je calque, moi, en tant que personne, mon épanouissement sur celui d'une personne dont je ne comprends pas la trajectoire, qui elle est, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, ben, en fait, tu prends le risque de te perdre. Parce qu'il y a des personnes qui sont taillées pour diriger, par exemple. Et typiquement, les alphas, on les présente comme étant des leaders en potentiel. Mais genre, le genre de personnes que tu peux lâcher dans la nature, et eux, ils voient simplement le moyen de créer quelque chose qui va, etc. Ils vont toujours aller chercher loin. Quel que soit le domaine dans lequel tu les jettes, ils verront seulement un moyen d'aller chercher loin, parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Mais ça ne fait pas d'eux des tyrans, tu vois. Ça ne fait pas d'eux des tyrans, des dictateurs, des choses comme ça. Mais c'est une pulsion à diriger.
Ouais.
Mais maintenant, si en tant que personne...
Une pulsion à créer quelque chose, non ?
Ça peut être créé aussi. Parce qu'en fait, quand tu diriges, souvent tu diriges vers quelque chose. Normalement, c'est un processus positif.
Et non, même... diriger, moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de négatif. Tu diriges les gens. Donc, tu es là, tu es le petit chef. Tu dis, toi, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça.
Mais diriger, c'est important.
Diriger, non, diriger et manager, c'est ça, deux nuances, deux choses complètement différentes. Manager, tu vas accompagner les gens et tu vas leur dire, ok, c'est peut-être tu fais ça comme ça, mais on va peut-être faire ça autrement, ou tu vois, on pourrait faire autrement. Diriger, c'est t'es direct sur ton point de vue, t'es on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ci, et toi tu fais ça, et toi tu fais ça.
Dans certains moments, c'est nécessaire, je pense.
Ah non, mais oui, diriger, oui, ouais. Oui. Mais tu vois, généralement, c'est plus vu quelque chose, c'est plus vu comme péjorativement le
okay, terme. Donc par rapport au terme. Okay, ouais.
Par rapport au terme.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une affaire de contexte.
Oui.
Parce que en réalité, enfin en vérité des vérités, l'alpha est présenté plutôt comme un leader. Et j'utilise le terme leader ici parce qu'en fait, tu vas utiliser le terme leader comme étant un terme global qui peut être dirigé, mais qui peut aussi être guidé. Tu vois? Dans certains contextes, c'est effectivement, on a besoin de quelqu'un qui va diriger, comme dans une rébellion armée, on a besoin de quelqu'un qui va diriger, comme dans une armée de manière générale, on a besoin de quelqu'un qui dirige. Mais le leader charismatique, plus que diriger, il incarne ce qu'il dit. Ce qui fait que il va lui-même prêcher par l'exemple. Et c'est à cela qu'on va dire que c'est un bon leader, tu vois. Parce qu'on va le voir sur le terrain avec les gens à faire les choses, tu vois. Mais de la même manière, le manager peut aussi être vu comme quelqu'un de trop froid parce que, justement, il peut avoir cette tendance à voir simplement les variables. Mais c'est une forme de leadership aussi. Mais est-ce que c'est forcément le bon leadership? Tu vois, c'est une affaire de situation aussi. Non,
évidemment. De toute façon, enfin, ta façon de diriger ou de manager en fonction du terme qu'on emploie, tu as différents leaders dans différentes situations qui vont potentiellement être les bons leaders et les mauvais leaders. Tu vois, par exemple, imaginons, je suis un leader, je vais être un bon leader dans une situation précise, mais par exemple, tu me mets dans une situation où, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, ça va pas être la bonne situation pour moi, je serai pas un bon leader, alors que pourtant j'étais considéré comme un bon leader dans l'autre situation. Alors qu'à l'inverse, toi tu vas être un bon leader dans la situation où je serais peut-être pas un bon leader, mais dans la situation où moi j'étais un bon leader, tu seras peut-être un moins bon leader que moi. Tu vois, t'as raison, c'est tout est une affaire de contexte.
Du coup,
et justement, ça là, ça nous amène à nous rendre compte que, ok, il y a des dimensions où, déjà en tant qu'homme, on doit être leader de notre propre vie. Et ça c'est... Allez, j'ai un tonton qui disait ça, qu'en fait, une des choses qu'en tant qu'homme, on doit comprendre, c'est comment nous diriger nous-mêmes. Parce que si tu ne sais pas te diriger toi-même, tu ne peux rien diriger. Ouais. Tu ne peux pas diriger des gens, tu ne peux pas diriger une maison, tu ne peux pas diriger une entreprise. Si tu ne sais pas te diriger, te manager, te gérer toi-même, c'est foutu. D'où l'important justement de visualiser comment t'amener toi-même vers un plan de maturité supérieur en fait. Parce que là encore une fois, comme on disait, alpha, bêta, tu vois, c'est des catégories très, très, très spécifiques, tu vois. Mais en réalité, l'alpha comme le bêta ont le même besoin de pouvoir monter leur stade, tu vois, de vibrer à un niveau supérieur, de se maîtriser à un niveau supérieur. Parce que si en tant qu'homme, tout court, que tu sois alpha, bêta, sigma, tout ce que tu veux, on s'en fiche, si tu ne te gères pas, si tu ne te maîtrises pas, si ton énergie, tu la disperses, tu n'avanceras en rien. Tu peux être un alpha qui échoue complètement, tu peux être un bêta qui échoue complètement. Et en fait, ce ne sera pas parce que tu es alpha, ce n'est pas parce que tu es bêta, ce n'est pas parce que tu es ceci, cela. Ça, c'est des excuses que tu pourrais te donner.
Ouais.
C'est juste parce qu'en tant que personne, tu n'as pas pris le temps de travailler sur ton bagage, sur comment croître, comment te développer. D'où justement le fait de savoir, ok, en tant que personne, moi, je suis dans cette catégorie-là, okay. Bah, quelle est en fait la nourriture qui est bonne pour moi,
ouais, c'est ça.
Tu vois? Et là, par exemple, tu peux avoir, ok, telle personne, ben, elle a une tendance au leadership, ben, elle a besoin de se nourrir de personnes qui vont nourrir sa manière de développer sa vision, de cadrer sa vision. Tandis que telle autre personne, elle est plutôt, pas forcément celle qui va créer l'architecture du projet, mais elle est extrêmement pertinente pour le conseil, pour le fine-tuning, elle sait voir les détails qui sont problématiques, etc., etc., et tout arranger et tout. En fait, on a besoin des deux.
Ouais.
Et c'est pour ça que, de mon point de vue, on a besoin des bêtas à mort, on a besoin des alphas à mort. Et on ne devrait pas être dans une histoire de être bêta, c'est mal, être alpha, c'est bien.
Okay.
Parce qu'en réalité, lorsque le leader va se battre contre les gens qui sont en première ligne là, s'il n'y a personne derrière lui, il est le leader de qui? Donc on a besoin, en fait. On a besoin que tous, nous soyons dans ce plan plus élevé, j'ai envie de conscience de nous-mêmes. Sinon, en fait, tu peux pas faire une... Tu prenais l'exemple de la meute de loups.
Ouais.
Mais la meute de loups, souvent, elle est organisée avec les jeunes extrêmement vigoureux devant. Ensuite, tu as ceux d'âge moyen qui suivent directement.
T'as les vieux.
Tu as les vieux au milieu. Et ensuite, à nouveau, aussi, tu as des forts qui sont derrière, etc., etc. Mais tous ces forts-là qui sont au milieu ne sont pas le leader. Mais si tu enlèves tous ces forts-là parce qu'on dit « mais tu n'es pas le leader, tu vaux moins que le leader », comment est-ce qu'on va faire pour protéger les vieux?
Ouais.
Et en fait, de mon point de vue, du coup, en tant qu'homme dans nos relations même, hein, tu vois, et là, relations amoureuses comme dans relations de travail, etc., ouais, on a ce travail-là à faire, tu vois, d'arriver justement à sortir de cette vision limitative, j'ai envie de dire, d'être alpha, c'est bien, bêta, c'est mauvais, tu vois.
Ok.
Et du coup, la prise de conscience de notre valeur. Parce qu'à partir du moment où on commence ce travail d'amélioration de soi, on doit vraiment se rendre compte qu'en fait, si tu connais ta valeur, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer.
Okay.
Et ce que tu disais tout à l'heure, Hugo, dans ta story time, courir après les gens, c'est fini en fait. Okay. On ne peut juste pas faire ça. On ne peut juste pas faire ça parce que déjà, un, ça t'avilie toi-même. Deux, ça diminue ton image de toi-même. Et trois, si ton image de toi-même, elle diminue, clairement, les autres perçoivent le problème. Et une femme qui va se dire, oui, ce gars me court après jour et nuit, je peux lui faire tout ce que je veux, etc. Le jour où elle te dit qu'elle va te donner sa chance, enfin ta chance,
ouais,
il est très probable que ce soit parce qu'en fait, elle a fini de jouer avec tout le monde et qu'elle veut se poser avec quelqu'un qui est tellement bas en termes de, enfin qui a une estime de lui tellement basse qu'il va l'accepter après toutes les dingueries qu'elle a faites. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup en fait avec les différentes cohortes d'âge. Tu vois que quand les femmes sont dans leur prime, elles ont beaucoup de choix. Et quand elles ont beaucoup de choix, elles ont tendance à aller choisir la personne qu'elles considèrent comme étant le meilleur prétendant possible. Quitte à aller chercher quelqu'un qui est largement au-dessus d'elle, parce que aussi la tendance à l'hypergamie, c'est aller chercher le top quand on n'est pas soi-même au top. Mais une fois que le prime diminue et que la valeur sociale commence à baisser, que la beauté commence à baisser, que l'âge commence à monter, la tendance qui va venir, c'est quoi?
T'es venu dire les termes, toi.
Ah oui, ah bah c'est vrai. Ah bah c'est vrai. C'est
pas chinois, là.
Les termes, oh, ouais.
Mais ce n'est pas un accident.
Faut bien cuire le plantain. Ouais, ouais.
Ah, je suis désolé.
Ouais. Non, mais parle français. Mais c'est
il suffit juste de regarder comment les femmes sont courtisées de 20 à 28 ans. C'est l'âge de la grande gloire. Mais qu'est-ce qui se passe à 30, 35 ans? Pour toutes celles qui veulent se marier et qui ont refusé le mariage, qu'on leur faisait une proposition de mariage dans leur vingtaine, là. Ah oui, parce qu'il faut aussi en parler. Tu as beaucoup de gars qui ont refusé des avances de prétendants qui, eux, étaient prêts à leur donner le monde et qui étaient sérieux. Parce qu'elles étaient trop à l'aise dans le fait d'avoir justement du choix, la liberté de leur relation. Elles voulaient étudier, elles voulaient voyager, elles voulaient ceci, elles voulaient les expériences qu'elles voulaient là.
Ok.
En général avec les fuckboys, qui étaient beaux garçons, mais qui étaient fuckboys, Dieu laissé.
Hein? Du coup, ça revient au même truc, à la même façon de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'évoluer de la même façon au même moment, tu vois.
Justement, tu vois, c'est exactement pour ça, tu vois. Parce que comme il s'agit d'évoluer, ça veut dire que toi, tu dois connaître ta valeur et savoir vers quoi tu es allé. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas te brader en courant après une personne qui ne veut pas évoluer.
Par contre, il y a un truc que j'aimerais soulever, et je pense que ce serait aussi important quand même qu'on fasse un relais dessus, c'est est-ce que du coup, pour ces personnes dont tu es en train d'expliquer que voilà, de 20 à 28 ans, c'était le prime, par exemple, et après, c'est des déclines, est-ce que ce sont des femmes... est-ce que c'est, tu les blâmes? Ou est-ce que c'est un constat? Tu positionnerais quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à en vouloir par rapport à ça? Est-ce que c'est normal?
Moi, je ne leur en veux pas. Honnêtement, ouais. Je ne leur en veux absolument pas parce que je pense que notre boulot en tant qu'homme, c'est de connaître notre valeur.
Voilà, il faut toujours ramener la chose à nous.
Et de nous monter à un stade en fait, où on est tellement
homme,
accompli.
Homme avec un grand H ou...
Non, homme mal.
Homme petit,
mal.
Homme mal.
C'est notre boulot à nous de nous construire parce que notre valeur sociale, elle vient avec l'expérience, avec le fait que justement on accumule. On accumule de la connaissance, on accumule de la richesse, on accumule un statut social, etc. Mmh. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure qu'on l'accumule, on attire de plus en plus de gens. Ce qui veut dire qu'en fait, nous, si on part du principe qu'on doit être désirable, pour prendre un exemple basique d'exemple de ce que tu expliquais tout à l'heure, tu es dans une classe, groupe classe, vous avez le même âge. Vous progressez donc d'année en année au même rythme, en postulant que personne n'est doublé. On avance au même rythme, personne ne reprend d'année. Donc, on arrive à l'âge de 18 ans, dernière année, on est en terminale, on est en 6e secondaire et tout machin, diplôme de fin d'année, voilà, bac, CESS, tout ça. On a 18 ans, on sort. On a le même âge, mais notre valeur dans le marché du dating n'est pas la même.
Ah non.
Et à cet âge-là, il est très rare que les jeunes femmes de 18 ans veuillent sortir avec les gars de leur classe.
C'est vrai.
Non, c'est connu. Et au fur et à mesure qu'on monte en année, cette tendance est de plus en plus visible. Et ce n'est pas grave. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que nous, au fur et à mesure qu'on monte les années comme ça, on a tendance à regarder des filles qui sont plus jeunes que nous.
Ouais.
Et ça fait partie d'en fait une espèce de rééquilibrage naturel qui se fait. C'est que quand on a 20 ans, on va regarder des filles de 18 ans plutôt que des filles de 25. Quand on a 25, on va regarder des filles de 20 plutôt que des filles de 28. Eh bien, les femmes de leur côté, quand elles ont 20 ans, elles se font courtiser par des hommes qui peuvent avoir 25, 30... 35, et ainsi de suite. Et ça peut aller parfois extrêmement loin. Parce que, encore une fois, à un certain moment, tu vois, t'arrives dans ce jeu où on se dit, entre guillemets, tous les coups sont permis. Tu vois. Mais si toi, tu penses que tu dois être en compétition avec les hommes qui ont 30 ans quand t'as 20 ans, tu vas perdre. Tu ne peux pas gagner. Ça, c'est un combat que tu ne peux pas mener.
Pour compléter, tu vois ce que tu es en train de dire, c'est que moi, par exemple, honnêtement, surtout maintenant, je suis absolument contre justement tout ce qui est... au final blâmer la gente féminine pour cette tendance-là. Parce que dans tous les cas, comme tu as dit tout à l'heure, c'est à nous les hommes, on a bien dit petit H mâle, de faire ce travail d'élévation de soi. Point. Plus tu t'élèves, plus tu es désirable. Plus tu t'élèves, plus tu as des choix. Ça veut dire, au lieu de blâmer, positionne-toi.
C'est ça.
Et d'elles-mêmes, bah, elles viendront ou pas, peu importe, mais... Parce que l'hypergamie est une réalité. Hein.
Oui.
C'est moi. Et comme tu es en train aussi bien expliquer, et les femmes, généralement, vont toujours prendre leur meilleur choix, la meilleure option. Tu vois, c'est connu. C'est et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire.
Elles sont génétiquement programmées à chercher ce qu'il y a de mieux pour elles.
Voilà, mais les hommes aussi. Enfin, nous aussi, on va toujours choisir le meilleur pour nous.
Et ce qui est intéressant, c'est justement de comprendre, et c'est ça le concept de comprendre l'hypergamie, c'est que le meilleur pour un homme n'est pas le meilleur pour une femme. Les critères de sélection pour une femme qui veut chercher le meilleur homme possible, elle ne va pas regarder les mêmes critères que l'homme qui va chercher la meilleure femme. Et en fait, c'est là que nous, on doit comprendre que si tu veux te rendre plus désirable sur le marché du dating, comme j'aime l'appeler, tu ne dois pas suivre les règles des femmes. Parce que ces règles ne sont pas faites pour nous, elles sont faites pour elles. C'est leur manière de nous trier, mais nous, on ne les trie pas de la même manière qu'elles nous trient. Du coup, une période, entre guillemets, j'ai envie de dire, d'échec dans le marché du dating ne signifie pas que tu ne vas pas percer. Parce qu'en réalité, cette période peut servir à ce que tu investisses en toi. Et normalement, c'est ça en fait, c'est ta phase de maturité. Tu dois investir en toi, amener ta valeur à son paroxysme, entre guillemets. Et là, entre guillemets, commencer ta deuxième jeunesse. Je vois ça comme étant la deuxième jeunesse.
Et là,
jeunesse.
La parenthèse, pour même, on va dire, faire le lien général, c'est qu'on ne parle pas qu'au niveau des femmes, hein, c'est vraiment en général, sociétalement parlant. Mais c'est juste que je trouve que généralement, ben, les femmes est un sujet très complexe chez nous, les hommes. Et ça aide aussi à mieux comprendre d'autres concepts, tu vois. Quand tu dis à un gars concrètement, ben, plus tu t'élèves, mieux tu parles, mieux tu te positionnes, mieux tu t'habilles, tu auras plus de femmes. Mais si tu traduis ça en mode, bah, dans le monde du travail, pareil, on va comprendre plus vite. Ah, ok. Donc, parce que moi, je pars du même principe. Hein. Mm-hmm. Savoir, on va dire, bah, entre guillemets, comment être désirable ou pas aux yeux des femmes, comment ceci, cela, bah, tu traduis juste en langage business, en langage pro, en langage entrepreneurial. Mm-hmm. Comment se démarquer, comment se mettre en avant, comment X, Y, Z. Et ça passe crème, tu vois. Donc,
parfois, il faut juste se dire les termes de manière extrêmement simple et ça devient très clair.
Ok.
Parce que sinon, on court et on poursuit les... Mmh. En fait, on poursuit les femmes, tu vois.
Ouais.
Au lieu de nous poursuivre nous-mêmes et de poursuivre notre valeur. Si tu poursuis ta propre valeur, jour, on va te chercher.
Tu poursuis ta propre valeur. Donc, du coup, en fait, c'est les femmes... qui vont venir à toi en poursuivant ta propre valeur. C'est indirect.
C'est un lien focus direct. Ouais.
Les femmes auront tendance à choisir leur... Allez, en fonction des perspectives et de leur niveau de maturité à elles-mêmes. Parce que souvent, on fait croire... Enfin, on a tendance à répéter, oui, les femmes mûrissent plus vite que les hommes. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est juste qu'en fait, les yeux, elles ne les tournent pas vers la même réalité que nous, aux mêmes âges. Nous, hein, au moment où elle regarde les grands, enfin, quand je dis les grands, au moment où, entre guillemets, elle commence à se détacher de nous pour regarder ceux qui sont plus âgés, plus expérimentés, qui ont un plus haut statut que nous, nous, on devrait regarder nous-mêmes et pas elle. Mmh. Et c'est cruel. C'est cruel. Ça veut dire qu'à partir de l'âge de, entre guillemets, 18 ans, si tu n'es pas un homme que les femmes courent, ne regarde pas les femmes. Regarde-toi toi-même, travaille sur toi, étudie, cherche l'argent, apprends l'investissement, apprends à build, deviens quelqu'un en fait qui a le potentiel d'apporter une valeur ajoutée dans la société. Parce que si tu fais ça dans ta vingtaine, à 30 ans, tu pèses. Socialement, tu pèses. Financièrement, tu vas peser parce que tu as déjà cracked the code. Tu as déjà compris en fait les clés qui vont te permettre sur ta trentaine à ta quarantaine d'être une personne importante ou imposante dans le game. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens se retrouve à faire une... Allez, à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 40 ans, t'as l'impression que toute la gloire de leur vingtaine a disparu. Mmh. Parce qu'ils n'ont fait que jouer. Ils n'ont rien appris. Et que du coup, l'âge où tu commences normalement à toi récolter les fruits de ton apprentissage, en général dans la trentaine, et c'est pas pour rien que c'est aussi la période où tu commences à gagner le plus d'argent, petit à petit, parce que tu as de l'expérience au travail,
l'âge
tu
de gagnes gloire.
Plus, ouais. Donc on te donne plus de responsabilités, tu commences à monter en termes de responsabilités et de postes, des choses comme ça. Mmh. Être millionnaire à 20 ans, c'est un rêve de maintenant. C'est littéralement le rêve de la génération Z. Mmh. C'est le rêve de « j'ai 22 ans, je suis CEO d'une grande société et voilà, je vais à Cuba, Bali, Dubaï, etc. etc. » Et tu as plein de filles en fait, qui pensent qu'elles méritent le gars qui est une aberration statistique parce qu'elles sont des 10 dans leur tête. Mmh. Alors que nous, on ne doit pas penser comme ça. Nous, notre courbe de progression, c'est une hyperbole. Tu vois? Comme hyperbole, comme X carré. C'est qu'au début, ça monte hyper lentement. C'est l'âge ingrat. L'âge ingrat pour un homme, ça peut durer jusqu'à 25 ans, sans problème. Hein? Ingratitude totale. Tu travailles, tu étudies, tu souffres, tu cherches l'argent, etc., etc. Ça vient douloureusement. Et puis un jour, tu pètes. Et tu commences à monter, tu commences à monter. Les opportunités s'enchaînent. On commence à te voir dans les médias. On te commence à t'inviter sur les plateaux, etc., etc. Il y a des gens comme ça, ils sortent de l'anonymat du jour au lendemain, leur vie change.
Ouais.
Mais c'est pas un hasard. C'est parce qu'ils ont passé 10 ans de purge seul dans les ténèbres, dans un petit appartement, à struggle avec leurs factures. Et un jour, ils étaient juste prêts. Parce que donner le succès à quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est une des pires choses qui soit. Et c'est comme ça que les enfants stars, drogue, dépression, suicide, etc. Parce qu'on leur donne un succès pour lequel ils ne sont pas préparés.
Ouais.
Et en fait, nous, en tant qu'hommes, on doit comprendre que quand les femmes ont leur succès, nous, on ne doit pas être envieux et on ne doit pas les critiquer pour leur succès.
Ni pour leur prime, ni pour...
On doit les laisser dans leur succès. Ouais. Parce que quand nous viendra notre succès, les femmes qui seront dans leur période de succès, nous chercherons nous.
Oui, bah oui.
Et ça,
c'est des
ça change le game en fait, tu vois. Ouais. Ça change vraiment le game.
Ok, ok, ok. Ça s'est enregistré. Ça enregistré, ouais.
Et du coup, bon, j'aimerais qu'on ait une petite, un petit,
interaction.
Petite distribution. Un aparté.
Ok, mais.
Sur les Sigma.
Ok, avant du coup d'aller sur les Sigma, yes. J'aimerais juste que ce soit important et intéressant de savoir comment est-ce que toi, en tant qu'homme, bah, tu t'es rendu compte de ce dont tu expliques là. Mm-hmm. Comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé et comment tu as assimilé les choses en fait. Donc ton propre parcours par rapport à ça.
J'ai appris dans la douleur. J'ai littéralement appris dans la douleur.
Ouais.
Et j'ai pris note de mes échecs.
L'importance de la douleur, d'ailleurs, c'est un des futurs
thèmes.
Ah
oui, mais ça, c'est...
C'est important, hein, la douleur. Que ce soit sentimentale, que ce soit financière, que ce soit sociétale, c'est important de fou. Mais vas-y, dis-nous.
Bah, si on doit... Allez, pour ceux qui s'y connaissent en manga, je dirais que... Oui, mais c'est une métaphore simple.
Allez,
c'est une métaphore simple.
Les Shippuden, Naruto.
Oui, on va parler Naruto. Oh c'est-à-dire qu'en fait... Ouais, non, mais c'est vraiment philosophique. Vous voyez, Naruto, il a appris dans la douleur, c'est-à-dire que... Techniquement, de par son bagage, les parents, etc., etc., on aurait pu se dire qu'il était prédestiné à la grandeur, mm-hmm. mais enfant, il ne manifestait pas cette grandeur.
Non.
C'est-à-dire qu'il a eu le parcours de quelqu'un...
Inverse, en fait.
Voilà, c'est le parcours de quelqu'un qu'on savait avoir normalement un potentiel, mm-hmm. mais lui-même n'était pas conscient de son potentiel. Okay. Donc, il a surjoué la bêtise pour se détourner de ses propres faiblesses.
Okay.
Et donc, en fait, il ne réalisait pas sa valeur.
Okay.
Et quand tu ne réalises pas ta valeur, tu as tendance justement à faire de mauvais choix. Tu as tendance à surjouer, à mettre l'emphase en fait sur, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment toi.
Toi,
tu vois. Parce que tu n'as pas encore trouvé ta place.
Ok.
Ce qui est Sasuke, en fait.
Oui, tu peux voir ça comme ça. Oui. Et en fait, c'est ce combat en fait entre je ne me connais pas encore bien ou je me connais mais je ne sais pas comment faire valoir ce que je suis.
Mm.
Et ensuite, il y a cette phase de ce que j'appelle le travail à la dure. Tu vois,
ouais.
Et tu commences petit à petit ton ascension. Parce que même si on voit la qualité de ton travail...
Là, t'es encore dans l'explication. Toi, moi, je te parle
de toi. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que c'est littéralement ça. Okay. C'est que moi-même, j'ai entendu les « tu es trop gentil », tu es un bon ami, oui, tu as un bon frère, etc. etc.
ouais.
Et tout pourtant, ce ouais. C'est des baratins, on a entendu.
T'as eu la Brother Zone.
J'ai eu la Brother Zone.
T'as pas eu la Brother Zone.
Ah, j'ai la Brother Zone.
Ah ouais, lui, il a évité la Brother Zone.
La Brother Zone.
Non,
tu es esquivé. Dieu t'a préservé. Ah oui, ça. La Brother Zone, c'est chaud.
Je te vois comme un frère.
Ah, c'est tendu. Et en fait, au début, je pensais.
Attends, c'est quoi la pire zone qui existe, tu penses? Il y a Friend Zone, Brother Zone.
Non, mais Daddy Zone, ça doit exister.
Tu vois comme un père pour moi.
Tu vois comme un père pour moi.
Toto Zone. Tu vois comme un prof Zone.
Non, Daddy Zone, ça doit être chaud.
Il n'y a pas de Daddy Zone.
Non, franchement, il doit y avoir. Si il y a un écart d'âge entre vous et que la personne, elle se confie à toi facilement et tout.
Je te vois comme un père.
Et puis, elle joue avec lui, tu sais.
Non, mais ça, c'est chaud.
J'ai rencontré quelqu'un.
Non, tu veux gérer quelqu'un, tu te vois comme un père. J'ai des enfants avant l'âge.
C'est mauvais.
J'ai des enfants avant l'âge.
Non, c'est pas bon.
T'inquiète, continue.
Mais ouais, donc j'ai entendu tous ces bails, tu vois.
Ouais.
Mais le truc, c'est qu'en même temps, du point de vue de ma personnalité, du point de vue de mes capacités, etc., tu vois, il y a l'appel au leadership et tout. Donc en fait, tu reçois des mixed signals qui viennent autour de toi parce que t'as les gens qui te voient comme quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on doit miser parce que t'as, comme ils disent, une destinée, hein, de la grandeur qui t'appelle.
Mm-hmm.
Et on sent ton leadership, toutes ces choses-là. Et en même temps, tu vois que dans tes relations amoureuses, les résultats sont... Ouh! Quand c'est bon, c'est génial. Mais le reste du temps, c'est des échecs catastrophiques. Tu te dis, mais OK, en fait, quel est le problème? Et le problème, justement, c'était de ne pas percevoir ma propre valeur. J'avais pas de vision claire de ce que je pesais dans le game, on va dire ça comme ça. Et en fait, il y a une relation que j'ai eue avec une jeune femme de bien.
Story time, très bien. Dis-nous, on écoute.
Micro story time.
On écoute la sauce.
Bon. Ouais, dis-nous. Voilà, donc, une jeune femme de bien. Hein, donc, on s'est rencontrés bêtement, répétition pour le mariage d'une de mes yayas. Très belle femme, mais moi j'étais très focus sur le travail que je faisais, sur les répétitions et tout machin, donc je ne l'ai littéralement pas calculé. C'est-à-dire, je l'ai croisée, Elle était posée là. Je l'ai vue, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit au revoir. Et je pensais que ça s'arrêterait là et que je ne la reverrais plus. Sauf que le fait que, dans toute sa beauté, je ne sois pas ému de l'avoir croisée, ça a allumé les voyants lumineux dans sa tête. Elle s'est dit, mais c'est qui ce gars? Pourquoi est-ce que je le vois là-bas excité quand il est avec ses potes et tout machin? Il a l'énergie, il danse, il s'amuse et tout machin, il parle et tout. Mais quand il me croise, rien du tout, zéro. Mystère et boule de gomme. Donc, elle a commencé à enquêter, chercher à savoir, oui, c'est qui, il fait quoi, etc., etc. Bon, c'est à l'époque où j'étais étudiant, j'étais en bachelier. Et de fil en aiguille, Facebook, une conversation avec des gens en commun et tout, elle m'ajoute et tout, blablabla. On commence à se fréquenter. Elle était à l'époque en couple. Et ça a donné lieu à une espèce de théâtre un peu complexe où on se rapproche, mais moi je sais que tu es casé. Et comme je ne suis pas intéressé de fréquenter une jeune femme qui est casée, je te dis très clairement que non, tu vois. Mais toi, tu me dis que non, mais c'est amical, etc., etc. Donc en fait, ça a donné... Il y a eu comme ça, je crois, 6 mois pendant lesquels on se parlait de plus en plus, on se voyait de temps
ça
en temps.
Ça me fait penser à une phrase, juste avant que tu continues, juste envie de la balancer. Et elle dit, elle ne te trompe peut-être pas, mais elle sait qui est le prochain. Continue seulement. Non, j'avais juste envie de balancer véridique. La phrase. Non, je voulais juste balancer.
Non, mais c'est très puissant. Continue. Et le truc, c'est que du coup, ça a continué comme ça pendant des mois. Puis, il y a eu la rupture. Elle a rompu avec son gars. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait rompu avec son gars parce que justement, elle était consciente que me le dire, c'était comme de dire c'est open. Tu vois? Donc, elle a voulu garder, entre guillemets, cette information un peu cachée. Mais il y a eu encore des rapprochements. Et donc, à un moment, j'étais là, ça devenait trop tendancieux, tu vois, on se voit, on se balade, tu m'appelles, on s'écrit, etc., etc. Mais tu es trop libre, trop à l'aise, tu vois, alors que moi, j'essayais de mettre de la distance.
À ce moment-là, tu l'avais déjà galoche ou pas encore? Il y avait déjà... Ok, vas-y.
Non, justement, parce que moi, j'essayais de garder une distance, mais comme on avait trop de gens en commun dans nos cercles, on finissait toujours par se voir, de toute façon, les anniversaires, tout, c'était devenu n'importe quoi.
Ok.
Fin de la session d'examen, là, on a eu une période où on se voyait vraiment trop.
Ouais.
Et comme elle ne m'avait pas clarifié sa situation avec son... Moi, je croyais que c'était toujours son gars.
Ouais.
Je lui ai dit clairement, écoute, à un moment, il faut qu'on joue carte sur table et tout, machin. Et finalement, j'ai appris à ce moment-là qu'effectivement, elle était célibataire. Mais elle n'était pas sûre de vouloir se mettre en couple à ce moment-là et tout. Bref, en fait, elle était très, très indécise par rapport à ça.
Ouais.
Le temps est passé, finalement, on a mis les choses au point, on a mis les choses au clair, on s'est dit les termes, on s'est mis ensemble. Et ce fut une histoire géniale. C'était vraiment, c'est la première fois que je me disais, voilà quelqu'un qui m'aime comme je veux être aimé. Et je l'ai aimé comme je pensais que je me devais de l'aimer. Et en fait, ça s'est passé comme ça, c'était très très bien. Les relations avancent, les familles sont au courant, etc., etc. Le temps passe, blablabla, les présentations, fiantons. Et... c'est un concours de circonstances un peu malheureux qui a fait qu'elle a dû quitter le pays.
Okay.
Elle a étudié à l'étranger, finalement ne plus revenir et tout, des histoires de problèmes familiaux et tout machin. Donc après X temps de relation, même à distance, on s'est séparés. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, tu disais la question, oui, on t'avait posé, est-ce que tu ne penses pas avoir raté la femme de ta vie? En fait, pendant des années, je me suis posé la question. Okay. Parce que pendant des années, je me suis dit, mais en fait... après avoir vécu une relation qui est conforme à ce que tu penses être une relation pour toi, comme tu voudrais la vivre, c'est difficile de ne pas comparer les choses qui viennent après et d'avoir l'impression en fait que c'est toujours en dessous de tes attentes. Surtout quand tes attentes sont très réalistes et que tu veux juste littéralement une personne qui te respecte, qui te mette pas, j'ai pas envie de dire qui te mette en avant ou sur un piédestal, mais qui te soutiennent dans ce que tu es et qui te poussent à être une meilleure version de toi-même. Tu vois, quelqu'un qui te nourrit positivement, quelqu'un qui ne te laisse pas faire certaines choses parce qu'elle se dit non, ça ce serait contraire à qui tu es en fait. Tu vois, quelqu'un qui saisit du coup qui tu es et qui te valide pour ce que tu es. Et en fait, après ça, du coup, les relations qui ont suivi, tu vois, c'était toujours entre guillemets une question qui me tournait en tête. et les bonnes et les mauvaises expériences, tu vois, ça m'a appris tout ça. Et bon, il n'y a plus les histoires de « oui, tu es trop gentil, tu es un frère pour moi », parce que Dieu merci, j'ai appris.
Du coup, là, on est dans ton étape de douleur, c'est ça ton truc qui était…
Oh, ouais, ça a été un enchaînement, en fait, de okay. relations qui ont été très insatisfaisantes, en fait.
Ok,
quoi.
Ok.
Puis, il y a eu une autre relation qui est, entre guillemets, était plus une amorce de maturité, on va dire. Mm-hmm. Parce que là, je savais ce que je voulais. Okay. Je savais vraiment ce que je voulais. Et du coup, je voyais aussi quels étaient les points sur lesquels je n'étais pas satisfait.
Okay.
Et donc, autant j'ai investi dans cette relation pour pousser la jeune femme à step up son game,
ouais.
dans le sens positif, parce qu'elle avait aussi des problèmes d'expérience passée, etc.
Ouais.
Et pour qu'on puisse évoluer ensemble,
dans la même direction,
mm-hmm. il fallait qu'elle accepte, tu vois, que certains trucs de son passé devaient rester dans le passé. Et qu'elle pouvait aller vers quelque chose de meilleur devant
et
elle.
Et te faire confiance et pour avancer. Exactement. Mais pour ça, on revient à ce que tu as dit, tu as appris à te diriger.
Ouais.
Ce qui permet que tu pouvais aussi donner, entre guillemets, une direction à la relation dans laquelle tu es entré.
C'est ça. Et du coup, ça a été difficile. Ouais, j'ai purgé de dingue.
Ouais.
Parce que le problème, c'est qu'une personne qui est brisée, elle peut refuser. Et c'est pour ça que les histoires de trop gentil, c'est aussi contextuel, tu vois, parce qu'une personne qui sait qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, elle va accepter la gentillesse pour ce qu'elle est, pas comme une forme de faiblesse, mais justement comme étant un trait de caractère et comme étant quelque chose qui peut la nourrir en réalité, ouais. tu vois. Et elle, c'était ça, en fait, c'est qu'elle a dû changer sa vision de la gentillesse, c'est mal, tu fais ça pour prendre le dessus sur moi, ouais. me diriger, des histoires comme ça, mm-hmm. vers... En fait, tu fais ça parce que tu te soucies de moi.
Ouais,
tu veux prendre soin de
donc
moi.
Donc en fait, c'est même une question de comment est-ce qu'on perçoit la chose.
Ouais, ouais, parce qu'il okay. y a des gens qui ne supportent pas qu'on prenne soin d'eux parce que pour eux, mm-hmm. c'est une relation de « je te prends quelque chose » en fait.
Ouais.
Tu vois, et c'est ça ce que je disais à un moment, le fait de se nourrir mutuellement. C'est qu'il y a des gens, comme ils ne se nourrissent pas, ils ouais. veulent juste prendre. Mm-hmm. Ben, il y a des gens, ils sont vides parce qu'on leur a pris. On ne leur a jamais rien donné en retour. Du coup, si tu vois, tu viens avec quelque chose de bon, quelque chose de positif, tu viens avec la semence de la gentillesse.
Non, genre, mais c'est archi deep, ce que tu dis.
Et en fait, ça les détruit.
C'est archi deep.
Parce qu'ils ne savent pas accepter le bien. Le bien, c'est devenu leur ennemi.
Ce que tu dis, c'est deep de fou parce que ça me rappelle, à l'ancienne, j'avais fait une story Insta. Et je me rappelle, tu te rappelles, tu avais justement, et j'ai jamais oublié ça, tu m'avais dit qu'il y a des personnes, parce que je m'étais reconnu dans le truc, tu vois, qu'il y a des personnes parfois aussi, elles ont tellement fait des dingueries ou des choses dans leur vie que parfois, je sais pas si tu te rappelles, tu avais dit que parfois quand quelqu'un vient avec une bonne intention mm-hmm. ou vouloir donner de l'aide,
tu rejettes.
Ouais. T'as du mal à accepter ou dire ouais, vas-y, nana. Parce que tu t'estimes pas méritant de la chose. C'était ça, ouais.
Mais c'est comme l'image, hein. Tu as sûrement entendu, et toi aussi, Hugo, je pense. On dit qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une bête, enfin, qu'un fauve blessé.
Ah oui. Ah oui, parce qu'il est prêt à tout pour s'en sortir, en fait.
Oui, mais c'est surtout.
C'est une image qui revient exactement.
Ah, mais moi,
c'est parce que c'est une créature forte.
Okay.
C'est une créature qui en impose, tu vois, c'est un chasseur.
Okay.
Mais maintenant qu'il est blessé, il ne chasse plus, en fait. Donc, dans cette position dans laquelle il est. Pour s'en sortir, il fait quoi? Tu veux l'aider, mais il croit que tu es venu le chasser, en fait.
Du coup, il t'allume.
Il te nique ta race.
Ouais. Tu vois?
Quand tu es profondément blessé, les bonnes actions sont vues comme des agressions.
Du coup, mais oui, mais moi...
C'est comme la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est la même chose.
Moi, tu sais, pendant des années, tu sais, avant de faire vraiment un travail et tout, d'acceptation de soi, de pardon de soi, c'est un truc de ouf, parce que vers 2020, 2021, je pense, les périodes-là où on parlait un peu de ces choses-là, j'étais en plein dans ce processus. J'étais en mode, en fait, je même demander de l'aide, par exemple, j'aimais pas, j'arrivais pas. Tu sais, je faisais partie de ces personnes qui se suffisaient elles-mêmes, entre guillemets, tu vois. C'est là maintenant que j'ai fait un travail et que j'ai appris, en fait, j'ai appris à me dire, écoute, t'es sur Terre, il y a des gens autour de toi, ils ont tous une capacité, de la valeur, et ils peuvent accélérer ton processus.
Yes.
Pourquoi est-ce que tu te retiendrais de demander de l'aide ou de collaborer avec qui que ce soit? Sachant que les relations, c'est la chose la plus puissante.
Mm-hmm.
Après, t'as l'argent. D'abord, c'est les relations, qui tu connais, etc., etc., tu vois. Après, oui, ça se discute ce qu'est l'argent, ce qu'est les relations, mais les relations peuvent t'apporter parfois dans des sphères où l'argent n'aurait peut-être pas pu t'apporter, tu vois.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, j'ai appris à me dire, ok, il y a eu tout ça, voilà. Comme tu as dit, pas tout le monde vient pour, peut-être, tu vois, de manière malaisante ou de manière avec de la mauvaise foi.
apprends à accepter, apprends à demander surtout, tu vois. Et du coup, bah, je demande et je m'en fous, tu vois. Si je sais que, tu vois, quelqu'un fait un truc, bah vas-y, tranquille. C'est comme ça qu'on se retrouve là, par exemple. Ouais, ah bah ouais, t'as kiffé le truc. Ah, mais t'en penses quoi de... Au pire, tu m'aurais dit non, tranquille, on va voir avec quelqu'un d'autre, tu vois.
Je vais même ajouter un truc qui complète ce que tu dis. C'est qu'en tant qu'homme, la vulnérabilité nous renforce quand elle est comprise pour ce qu'elle doit être. Parce qu'il y a des moments où tu dois être, comme tu dis, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Mais il y a un moment où le match est fini. Il y a un moment où tu t'assieds. Il y a un moment où tu
es fatigué.
Il y a un moment où tu as combattu, tu t'assieds et tu fais des bilans. Et il y a des moments où tu as besoin que quelqu'un vienne te masser et te permettre de jouer le prochain match. Tu vois, tu ne peux pas être tout le temps dans le match. Il y a un moment où tu dois te dire, OK, là, je m'arrête. Et c'est un moment de vulnérabilité. Et dans ces moments de vulnérabilité, tu as besoin justement d'avoir quelqu'un qui comprend que dans ta vulnérabilité, on ne doit pas t'attaquer. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a plein de personnes, franchement, qui sont perpétuellement dans la confrontation.
Mais ce sont des blessures, gros.
Ce sont des blessures.
Là, la vérité, c'est des blessures de fou. Parce que comme on dit souvent, moi, tu sais, j'ai un texte que j'ai écrit dans mon projet politique qui s'appelle Peur d'aimer.
Bientôt dans les bacs.
C'était par peur d'être blessé, je blessais.
Oui.
Tu vois le délire ou pas?
Non.
Et t'as plein de gens qui sont dans ça. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, avec le temps, moi, j'ai appris en fait à certaines personnes à même pas calculer ce qu'elles disent ou ce qu'elles font, parce que tu vois même de comment est-ce qu'elles s'expriment. C'est de la blessure qui parle. C'est de la frustration de quelque chose. Tu sens quand quelqu'un dégage pas la paix, de toute façon, tu vois, quand quelqu'un dégage pas la compréhension ou l'ignorance ou toutes ces choses-là, tu vois.
Ouais, c'est sûr.
Donc, je vois totalement ce que tu dis. Bah, du coup, Roland, je crois, pour petit à petit synthétiser, parce que...
Nous avons dit les termes.
Ouais.
Je pense juste compléter, alors, du coup, ce que Hugo a dit, parce que l'histoire de la confrontation, pour donner... Parce que je donnais des témoignages personnels, il y a des personnes avec qui j'ai vu des discussions que j'étais en train d'avoir. J'ai vu que les échanges ou les réponses que je recevais étaient juste envenimées et j'ai juste jamais répondu. J'ai laissé. Vraiment, parce qu'il y a des fois où tu sais, tu parles avec une personne tu parles avec une personne que tu apprécies, mais la discussion que vous êtes en train d'avoir, c'est des jets de venin.
Ouais.
Mais comme moi, je suis quelqu'un qui a fait ce travail d'accepter mes blessures et qui a fait ce travail de chercher à me guérir, à me soigner de beaucoup de ces bêtises. En fait, quand tu viens et que tu me jettes du venin, moi j'esquive. Tu vois, je vais pas te laisser m'empoisonner. Je peux pas. Tu vois, parce que ce serait me diminuer
le travail. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je suis dans cette dans cette tranche-là en ce moment avec une amie, exactement là-dedans, qui elle c'est avec une amie que j'ai eue et qui s'est fait larguer il y a. Je sais pas, quelques années déjà maintenant. Et en fait, elle est tout le temps dans, tu vois, les hommes c'est des connards, etc.
Voilà, c'est sa faute.
C'est ça.
Okay.
Sauf que le problème, c'est que du coup maintenant, elle voit tout noir.
Ok.
Tout noir. Elle voit toujours le. Elle est tout le temps pessimiste. Et tu vois, et donc du coup, quand toi t'es là à vouloir l'aider, à vouloir lui envoyer des, et tu vois, mais ça m'a pas marché comme ça et tout. En fait, elle te rétorque. Direct, elle te rétorque un truc
que tu dis, ah ouais, flemme.
Putain, mais
je veux juste aider.
Pourquoi tu me rétorques un truc comme ça?
Non, c'est elle est blessée, gros.
Tu vois, et donc du coup, maintenant, évidemment, logique, j'essaie de moins lui parler. T'esquives de manière
différente. Non, c'est au niveau des énergies et tout. Non, clairement.
Mais de toute façon, quand t'as une personne qui. Tu peux pas changer une personne.
Ouais, clairement.
Une personne changera au moment où elle aura décidé de changer.
Exactement. Yes.
Tu peux pas la forcer à changer.
Ouais, non, clairement.
C'est pas possible.
À part, Mais tu vois, pour, conclure le tout, déjà, je te remercie pour les sujets que tu as apportés. Honnêtement, parce que depuis que tu parlais, pendant que tu parlais, je réfléchissais, j'ai dit, mais comment je vais amener la chose? Parce que ce podcast-ci, je le trouve assez complexe aussi, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment le type de podcast qu'il faut vraiment se poser et prendre le temps de prendre les infos qui ont été données dedans. Parce qu'il y a vraiment de la matière, en fait, tu vois. Du coup, je te remercie pour ça, qui est l'une de tes spécialités, d'ailleurs, d'apporter de la matière. Mais on va conclure sur... on a beaucoup parlé de l'accomplissement de l'homme, tu vois. Quel dernier conseil, par rapport à ce que tu as vécu toi-même ou ce que tu as étudié, du coup, de manière générale. tu dirais aux hommes ce sur quoi s'attarder au final, tu vois, ce sur quoi se concentrer. Parce que moi, je suis vraiment pas dans le conflit ou les délires de hommes contre femmes ou ouais, les femmes. Non, non, non. Il n'y a pas de ça là, mais non, c'est comme on avait dit avant, ouais, il y avait, t'as capté quoi, d'attaquer les féministes sur les réseaux.
On s'est dit les termes, on s'est dit les
là blagues. Maintenant en fait, 3.0, là maintenant, voilà, là maintenant, la nouvelle vision, c'est tout simplement, au lieu d'aller vers l'attaque, vers le dénoncement de je ne sais quoi, c'est juste comment est-ce qu'en tant qu'homme, tu peux mieux te positionner, point. Tu vois, et c'est tout, c'est juste ça le travail. Il n'y a pas de dénoncer, non, juste, t'es un homme, ok, tu fais comment. Et je pense que c'est important parce que t'as parlé de valeur, et c'est ça qui manque énormément. Bah, aux personnes en général, mais là on est tourné vers l'homme du coup, mais aux hommes en fait, de connaître leur valeur, tu vois. Mais en conclusion, tu dirais quoi du coup par rapport à ce qu'on a partagé là? Et puis, puis on clôture tout ça et on balance ça. Hein.
Ben, pour terminer, puisque c'est quand même une affaire de Brandon et de Marc qui nous a amené ici, hein,
voilà.
Je dirais que les marques, n'essayez pas de devenir des Brandon. Vous ne serez jamais d'aussi bons Brandon que les vrais Brandon. Lorsque vous serez de bons marques, vous attirerez de bonnes personnes. Et les Brandon, ne croyez pas que la fête va durer éternellement. Parce que tôt ou tard, ce qui va se passer, c'est que vous allez ressentir le vide que vous essayez de fuir.
Non, mais après tu vois, c'est là où est-ce que dans quand même le premier podcast, j'ai déstigmatisé la chose. C'est qu'en fait, le Brandon, malheureusement, on l'associe au bad boy, au gars X, Y, Z. Mais en fait, c'est même pas totalement ça. Là, c'est bien parce que dans la caricature, c'est comme ça qu'on l'a représenté. Mais en fait, un Brandon, c'est tout simplement un homme qui poursuit sa vision.
Ah oui,
tu
mais...
Tu vois.
Là, c'était aussi, par rapport au jeu de rôle.
Ok, je te laisse.
Du coup, non, là, je suis pas d'accord. Le Marc aussi, il poursuit sa vision.
Non, par rapport, non, par rapport au,
c'était le jeu de rôle, en fait, au jeu de rôle podcast,
de base du premier podcast, le Marc est plus...
Sa vision, en fait,
c'est sa femme. Ah, okay. Alors que Brandon, sa vision, c'est sa vie, c'est son truc, etc. Tu vois. C'est pour ça que même quand toi, tout à l'heure, tu expliquais que bah, tu as une vision, tu suis ton truc, etc., je me suis dit, mais en fait... C'est ça que, en fait, ça revient. En fait, ça rejoint le truc où on se dit, en fait, il n'y a pas vraiment de case. Tu vois,
oui,
parce que c'est pour ça que c'était un truc de caricature. C'est vraiment se dire, voilà comment la société voit Marc et les femmes voient Marc. Voilà comment elles voient Brandon et ce qu'on dit d'un Brandon. Mais dans les faits, bah, pas forcément au final. Le truc que je dis au final, c'est en fait, c'est comme tu as si bien expliqué, comment arriver à ta propre maturité et aussi parallèlement connaître ta valeur tout simplement. Parce que tu peux être un excellent, voilà, tu développes tout, mais peut-être la plus belle des femmes qui est là-bas, peut-être qu'elle ne te convient pas. C'est vraiment en mode, qu'est-ce qui nous convient, à quel moment, et surtout se décomplexer en tant qu'homme, de se dire, ah ben lui il est comme ça, ou lui il est comme ça, moi je ne suis pas assez bien. Tu vois, on se décomplexe de ça, et on avance ensemble, et c'est carré dans l'axe, tu vois. Moi c'est un peu ça que je voulais vraiment... Donc c'est vraiment pour encourager chaque homme tout simplement de s'accomplir nous-mêmes et être à l'aise et chercher à, je dirais, comprendre les femmes au lieu de les blâmer par rapport à ce qu'elles sont, tu vois. Ça, c'est important.
J'irai même plus loin.
Tu vas t'enlever plein de soucis, en fait.
Cherche-toi toi-même.
Ouais.
Si tu te trouves toi, on viendra te chercher. Vraiment.
Véridique.
Parce que si tu établis que ta faiblesse, c'est ça, et que tu travailles sur cette faiblesse, tu gagnes du temps.
Carré dans l'axe. Hugo, je sais pas si tu partages un dernier truc pour la fin.
Bah écoutez, moi, je suis un peu d'accord avec vous. Hein, plus tu vas te développer toi-même, plus tu seras attractif sur le marché.
Sur le marché. Que ce soit du dating game, que ce soit du business, tout. Et c'est ça en fait la vision. Sport, mental, mindset, finance, spirituel, tout.
Tu te développes toi-même, tu vas être beaucoup plus attractif sur tous les marchés possibles.
Ok, yes. Bah je pense que c'est carré dans l'axe, hein, les gars. Vous dites quoi?
On peut
boucler?
Il y a goal.
Ok, bah on va boucler. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, hein, franchement, à faire des retours. Je sais que c'était un sujet assez complexe. Bah, la preuve, c'est qu'à la base, c'était une partie. On arrive à 3 sous demande du peuple. Donc, c'était Journey with the Prince, le podcast préféré du peuple. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, au cas où? Je ne sais pas si certains veulent partager leur réseau ou quoi.
Alors, sur Instagram, lord_plantain.
Ok.
Et moi, ça va être aussi sur Insta, Hugo Barlesi.
Hugo comment?
Barlesi.
Ça s'écrit comment, Barlesi?
B-A-R-L-E-S-I.
Ok, carré. Ah, donc, c'était Lord Plantain, Hugo Barlesi, Johnny with the Prince. À suivre. Ciao.